frenchpodcast.com. Thibaut a 24 ans. Il travaille en tant que designer pour Internet. Mais il a aussi un autre talent, la musique. Guitariste au sein du groupe Hazar Sonic, il nous parle de son parcours en tant que musicien amateur. Un hobby qui est également sa passion. Bonjour Thibaut, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique ?
Ça fait depuis que j'ai 14 ans, donc une dizaine d'années maintenant, un peu plus de 10 ans. Je me suis mis à la guitare électrique en pleine adolescence, comme beaucoup de garçons de mon âge. Donc j'ai pris des cours pendant un an, à la fois la pratique et le solfège, destiné vraiment à une utilisation immédiate de l'instrument.
Combien d'années de solfège ?
En fait, c'était des cours chez un professeur qui me donnait des bases de solfège directement appliquées à la guitare et aux accords. J'ai pris à peu près de mes 14 à mes 16 ans, donc 2 ans de cours de guitare et solfège. Après, j'ai continué tout seul. Donc, comme tous les instruments, en général, on dit qu'il faut prendre des cours pendant 2-3 ans, après se chercher soi-même. J'ai repris des cours 4-5 ans après, pendant 6 mois, quelque chose comme ça, pour corriger un peu les erreurs que j'avais cumulées avec le temps. Donc en tout, j'ai dû prendre 2-3 ans de cours de musique et de solfège. C'était combiné ensemble en fait. En conservatoire, on n'appellerait même pas ça du solfège. Enfin, je connais mes gammes, les notes, les accords, comment on compose des accords. Mais je ne vais pas aller lire de la musique sur une portée, c'est pas du tout ce qui m'intéresse.
Tu lis pas une partition ?
Si, je peux lire une partition, mais en pratique, je ne l'ai quasiment jamais fait, vu qu'on ne lit jamais de partition en groupe. C'était vraiment destiné plus à l'improvisation blues, jazz et... destiné à savoir jouer avec d'autres musiciens, à être dans le rythme et à pas être faux.
Question de néophyte, si tu composes de la musique, comment est-ce que tu l'écris ?
Donc on l'écrit de manière totalement simplifiée, soit en retranscrivant les accords et non toutes les notes qui composent la musique, ou soit si on veut être plus détaillé pour par exemple retranscrire des lignes mélodiques, en utilisant le système de tablature, qui est un système qui représente les notes par des chiffres et non des notes traditionnelles. Donc qui est très simplifié, vu qu'un chiffre correspond à une note sur le manche de la guitare et est lisible par à peu près tout le monde, même quelqu'un qui ne fait pas de musique.
Quand tu as voulu jouer d'un instrument à 14 ans, c'était juste le plaisir de jouer de la guitare ou est-ce que tu avais déjà envisager peut-être plus tard de monter un groupe? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir jouer de la guitare?
Déjà, je pense que ce qui m'a amené à vouloir en jouer, c'est de voir que c'était possible d'en jouer en voyant un camarade qui en faisait. Enfin, j'avais comme beaucoup l'image de la guitare ou de la musique en général comme quelque chose d'assez élitiste et réservé vraiment à des gens qui avaient fait le conservatoire depuis qu'ils avaient 6 ans, etc., etc. Et en fait, je voyais que non, pas du tout, en prenant 2 mois des cours de guitare, on pouvait jouer du Nirvana, du Bob Marley ou n'importe quoi de très connu. Déjà, ça en soi, ça m'a un peu impressionné. Donc, effectivement, je m'y suis mis et quelques semaines après, je jouais des morceaux de Nirvana et ça posait pas de problème. Et bien sûr, j'ai vu qu'il allait y avoir moyen de jouer avec d'autres musiciens et que ça allait être une activité très sympathique. Et donc, ouais, ça m'a aussi intéressé. Par contre, il a fallu un peu plus de temps, je crois, au moins 3 ou 4 ans avant que je joue vraiment dans des groupes avec d'autres musiciens, des batteurs, des claviers, parce que quand même, je pense que j'avais pas une très bonne oreille à la base et pas non plus un très bon sens du rythme. Et ça demandait pas mal de travail avant de pouvoir jouer avec d'autres gens. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer tout seul dans ma chambre pendant des années, comme beaucoup d'ailleurs.
C'est curieux parce que tu dis que tu avais a priori une mauvaise oreille. Et donc ça voudrait dire qu'on peut exercer son oreille, on peut l'améliorer ?
Ah mais bien sûr, d'ailleurs c'est l'une des premières choses que m'a expliqué mon professeur, c'était justement qu'il n'y avait rien d'inné, que l'oreille se musclait en fait, où il y avait des exercices pour s'entraîner l'oreille, et d'ailleurs je sais que pendant 2 ans, tous mes cours de guitare, ils démarraient par des dictées musicales qui consistaient justement à entraîner son oreille, à retrouver des accords à l'oreille, à retrouver des lignes mélodiques à l'oreille, sans justement lire de notes, ça se travaille, ça c'est évident.
C'est intéressant comme information.
Comme le rythme se travaille, l'oreille se travaille.
Tu me dis qu'avant d'avoir monté un groupe, tu as joué dans des groupes.
Oui, j'ai joué dans des groupes, dans différents cadres, soit dans des ateliers de la ville, c'est des groupes auxquels je participais, on suivait quelqu'un qui imposait soit ses morceaux, soit on faisait des reprises. La même chose au lycée, à la fac, un autre groupe, et en deuxième ou troisième année de fac, là j'ai vraiment monté un groupe avec des amis où le but était vraiment de faire des créations originales et de la composition. Notre idée, qui était une idée un peu commune, c'était de mélanger de la musique électronique avec de la musique électrique, donc mélanger un clavier, un sampler avec une batterie, une guitare électrique, c'est ce qu'on a fait.
Maintenant, ton groupe.
Actuellement, en fait, vu que je travaille depuis à peu près un an et demi, j'ai quasiment plus aucune activité musicale, de manière totalement amateur et vraiment isolée. Je continue à faire de la musique, des enregistrements, et surtout à travailler sur le PC comme un grand nombre de musiciens aujourd'hui, à faire mes petits mix, mes petits arrangements, mais c'est vraiment que pour le délire et il n'y a plus réellement d'activité musicale sérieuse, c'est même de moins en moins sérieux, de moins en moins suivi. Juste à l'exception, j'ai quand même une expérience en radio l'an dernier où là c'était uniquement de la création de jingles, donc on s'éloigne un peu de la musique, mais c'est vrai que ça se recoupe. Là je crée des jingles pour Radio Campus Paris, j'ai la radio étudiante parisienne, donc des habillages sonores, des petits spots, des petits sonals qui annoncent l'heure toutes les heures avec une petite musique, mais bon c'est assez particulier, mais c'est vrai que c'est assez musical. Ça implique d'enregistrer, de trouver des bonnes voix, d'enregistrer des voix, de trouver des petites mélodies très courtes. Surtout de réussir à condenser la chose en 10 ou 20 secondes et puis après d'avoir un produit qui passe toute la journée, toute la semaine à la radio, c'est assez gratifiant, donc ça c'était assez intéressant. C'est vrai que depuis ce moment-là, j'ai plus réellement d'expérience suivie en musique. J'ai toujours un groupe de création, donc Hasard Sonic, où on essaye de mélanger toujours des samples et de la guitare électrique et de la batterie. Mais comme je disais au début de la réponse, depuis que je travaille, c'est de moins en moins de temps accordé à cette passion.
Est-ce que les autres membres de Hasard Sonic sont dans la même situation que toi, c'est-à-dire qu'ils sont mis à travailler, qu'ils ont moins de temps à consacrer, ou est-ce que le groupe fonctionne un peu sur trois pattes comme ça?
C'est un peu ça, oui, ça fonctionne un peu sur trois pattes du fait que on n'a pas réellement enterré le groupe et en même temps on est tous conscients qu'on n'a plus vraiment le temps de faire trois répètes par semaine et donc on se voit de temps en temps, mais là c'est vrai que ça fait au moins deux mois qu'on ne s'est pas vu, donc. Ça existe encore, il y a encore des musiciens du groupe qui bossent de leur côté, moi-même je bosse de mon côté, mais de moins en moins.
On sent le regret dans ta
voix.
Ah oui,
bien sûr. C'est un regret pour tout le monde. Mais bon, il faut faire un choix, à un moment on ne peut plus passer 20 heures par semaine à faire de la musique.
Vous étiez combien dans ce groupe?
En fait, c'était assez variable, on était jusqu'à 6 avec un rappeur et un scratcher. Moi je faisais de la guitare et je programmais un peu les batteries et les sons électroniques. Il y avait un mec au clavier et au mélodica. Le mélodica, c'est ce clavier dans lequel on branche un embout et dans lequel on souffle. Ça ressemble à un piano, mais c'est un instrument avant. C'est un son beaucoup utilisé dans le reggae notamment, et on trouvait ça intéressant de reprendre ça dans l'électro-rock. Et donc un batteur et un bassiste, et voilà, de quoi faire une musique assez fusionnelle.
Tu parles de scratcher?
Un scratcher.
C'est quoi?
Un monsieur avec une platine à vinyle qui agite ses vinyles pour faire des bruits stridents et obscurs qui peuvent en rebuter certains, mais qui peuvent être aussi fort mélodiques et fort rythmiques quand c'est utilisé avec parcimonie.
Je connaissais le procédé, mais pas le nom. En termes de matériel et d'instruments, comment vous avez pu vous payer les instruments nécessaires pour monter le groupe? Est-ce que c'est cher?
C'est vraiment quelque chose qui se fait sur des années et des années. Moi, ma première guitare, clairement, c'est ma famille qui me l'a offert à mes 14 ans. C'est vrai que c'est un investissement qu'on ne peut pas faire tout seul à cet âge-là. Après, avec les années, j'ai pu m'acheter une vraie guitare, une Fender, quelque chose de plus professionnel avec un vrai son. Et en parallèle, surtout, j'ai beaucoup économisé pas mal de mon argent. Des jobs d'été, mon argent de poche a été investi dans la musique. C'est comme ça que j'ai pu acheter ma première Groovebox, une machine à faire des bruits électroniques, et puis ensuite mon premier sampler à caille. Et puis c'est pareil pour tous les gens du groupe. T'as tout l'argent des jobs d'été est passé dans les platines, dans les tables de mixage, dans la batterie, le mélodica, enfin voilà, un véritable gouffre à argent.
C'est beau la passion. Ce matériel, il est stocké où maintenant?
Il est réparti chez les différents membres. Pendant un an et demi, on a eu un local où tout ce dont on servait régulièrement était entreposé et resté la semaine, mais maintenant chacun a récupéré son matériel. Moi j'ai encore des guitares qui sont chez mes parents Et le batteur a encore sa batterie chez ses parents aussi.
Vous répétiez où? Parce que j'imagine que c'est un tout petit peu bruyant.
Là, pendant un an et demi, on a répété dans un local prêté par la municipalité de Noisy-le-Sec, là où j'habite. Donc c'est vrai que vous pouvez faire du bruit et monter le volume sans problème. Et puis pendant un peu plus d'un an, on a répété dans le garage du batteur, là où il y avait le gros du matériel, qui évite de déplacer incessamment tout ce matériel qui est assez lourd. Et voilà, on s'est pas forcément fait super ami avec les parents, mais...
Ni les voisins,
ni j'imagine. Les voisins.
Donc j'allais te poser une question, mais j'ai déjà quelques indices. Quelle a été ta source d'inspiration et quel est votre style, ou quel est ton style maintenant, puisque tu joues moins avec le groupe?
En même temps, j'ai un peu de mal à répondre à ce genre de questions, parce que les influences, elles ont été multiples et dans tous les sens en même temps. Et c'est un peu la même chose pour tous les membres du groupe d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a eu des parents qui écoutaient toute la musique des années 60-70, les Stones, les Beatles, les Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd, enfin toute la musique psyché, rock de cette époque-là. Et en même temps, toute la musique soul noire de la Motown et de Stax. Donc déjà en soi, c'était un mélange dans nos influences parentales. Et en même temps, on a découvert tout ce qu'on avait 10 ou 15 ans, le hip-hop et... l'électronica avec Aphex Twin ou des gens comme ça, et le rock de l'époque, c'était le grunge pour notre époque. Donc en fait, il y a eu un mélange d'au moins 3 ou 4 gros courants musicaux, que ce soit le rock, le hip-hop et l'électronique, qui a fait que justement, c'est assez difficile de se trouver une direction musicale dans tout ça, et ça revient toujours à quelque chose d'assez fusionnel au final, d'assez mélangeant.
Où est-ce qu'on peut vous écouter? Sur Internet, par exemple?
Sur Internet, il y a un MySpace d'Arsonic qui n'a pas dû être mis à jour depuis des années maintenant.
Quelle honte!
Sinon, il y a mon portfolio, où il y a pas mal de MP3 aussi. Je laisserai l'adresse.
Bien sûr, on la joindra à ce transcript. Je ne sais pas s'il y a des paroles dans vos tracks, mais je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on travaillait. Est-ce qu'on écrit déjà la musique et on y met du texte, ou plutôt l'inverse?
En fait, vu qu'il n'y a pas de chanteur vraiment dans le groupe, enfin tout le monde chantonne un peu, donc on a toujours uniquement composé des musiques, même si ça pouvait inclure des samples de voix, donc ça restait des instrumentaux. Et là-dessus, on faisait appel notamment à un rappeur et ami à nous qui s'appelle Ridim, qui compose des textes en français assez engagés, et dans ce sens-là, c'est là qu'on peut appeler notre groupe plus un collectif qu'un groupe, parce qu'il n'y avait pas réellement de travail de composition uni. Et au final, le rappeur posait des textes qu'il avait écrits de son côté sur notre musique que nous avions écrit de notre côté. Bien sûr, il cherchait à poser des textes qui lui paraissaient adaptés, mais le travail n'était pas fait dans la continuité. C'était plutôt un mélange de deux sources totalement distinctes.
Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté à titre personnel? Et la musique et le fait d'avoir vécu cette aventure du groupe?
La musique en soi, je pense assez sûr, ça m'a apporté au niveau mémoire et rigueur. Ça c'est clair et net que de travailler un instrument de musique, ça fait travailler la mémoire et le sens de l'organisation. Après, la musique et le groupe, ça m'a surtout apporté énormément de contacts, d'amis, de petits amis aussi, hein, faut pas le nier. Des vacances entières basées sur la musique, ça m'a apporté beaucoup.
Le mythe des groupies est donc réel?
Le mythe des groupies est forcément réel aussi, il s'applique à moi, il s'applique à tout le monde. Ouais.
Est-ce que tu pourrais même dire que ça peut apporter aussi une certaine forme de maturité en termes de réflexion par rapport à la musique, mais aussi le fait, par exemple, que tu aies dû économiser de l'argent pour t'acheter du matériel?
Je suis pas certain, parce qu'en même temps, c'est aussi à la fois peut-être source de maturité, mais aussi à la fois source quasiment d'autisme quand on se met à penser que à ça, à tout mettre de côté pour acheter le prochain sampler ou pour acheter sa prochaine guitare. Ça peut être cloisonnant par rapport à d'autres gens, par rapport aux études, par rapport au travail et par rapport aux gens qui ne font pas de musique et qui peuvent être saoulés d'entendre parler de ça à longueur de journée. Ce que je peux tout à fait comprendre. C'est une passion, et comme toutes les passions, ça enrichit et ça apporte beaucoup, mais ça peut être néfaste.
Ça isole.
Ouais, ça peut être isolant.
J'imagine que ton souhait le plus cher, c'est pouvoir à terme libéré un peu de temps pour t'y remettre?
J'espère. Donc, j'ai fait le choix de travailler dans le service public pour ne pas non plus passer des semaines de 80 heures au travail. Donc, j'espère que le nombre de jours de congés dont je dispose me permettra de me remettre à faire de la musique. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion d'en profiter encore.
Et dernière question, enfin plutôt autorisation. J'introduis toujours des petites boucles musicales au début et à la fin de mes interviews. Donc, est-ce que tu m'autorises à me servir de tes MP3
pour, ouais, bien sûr. Bah,
pour faire entendre à nos internautes tes productions?
Il n'y a pas de souci, il faudra qu'on choisisse ensemble par contre.
D'accord,
voilà.
Je te remercie Thibaut.
De rien.
L'extrait que vous entendez au début et à la fin de ce podcast s'intitule « Fighting Against ». Voici l'adresse du site de Thibaut où vous pouvez retrouver quelques titres de sa composition en MP3. hasardsonic.free.fr. Cette adresse figure dans le transcript du podcast. Merci de votre écoute et à très bientôt sur frenchpodcast.com pour de nouveaux reportages.